Selon une étude de Harvard datant de 2021, un décès sur 5 dans le monde serait lié à la pollution de l'air. Cela représente 7 millions de morts.
En France, ce sont presque 100 000 décès qui seraient attribués, chaque année, aux particules fines issues de la combustion d'énergie fossile. C'est le double de l'estimation officielle de l'Agence française de santé publique.
Dans son rapport de 2021, Santé publique France souligne le rôle des particules fines que nous évoquions dans l'épisode précédent de ce podcast. Ces micro-particules de la taille d'une bactérie sont dégagées par les activités humaines comme le trafic routier, le chauffage ou l'industrie.
Toujours selon cet organisme, ce sont chaque année en France 40 000 personnes de 30 ans et plus qui meurent des suites d'une exposition à ces particules. Elles font aussi perdre en moyenne 8 mois d'espérance de vie aux Françaises et Français de cette même tranche d'âge. 7% de la population française mourrait à cause de cette pollution. Par comparaison, les accidents routiers comme domestiques représentent 4,6% de la mortalité totale française.
Mais comment expliquer que la pollution de l'air nous impacte autant ? Comment notre corps réagit-il à son exposition ? Enfin, qui sont les plus touchés ? Et comment nous prévenir du danger ?
On aimerait bien savoir par quel processus la pollution de l'air va nous rendre plus vulnérables à certaines maladies, par exemple, en vulgarisant.
Isabella Ansi Maceano est directrice de recherche à l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale et responsable de l'équipe épidémiologie des maladies allergiques et respiratoires. Durant la crise du Covid-19, elle fait partie de ces chercheurs et chercheuses qui établissent une corrélation entre la mortalité due au Covid et la pollution de l'air. Elle nous explique de quelle façon la pollution de l'air s'en prend aux organismes et particulièrement aux plus vulnérables.
La pollution atmosphérique, en fait, c'est un cocktail de plusieurs polluants et agit en tant qu'agent inflammatoire, d'accord, mm-hmm. Donc, il fait augmenter l'inflammation au niveau des tissus de l'organisme et de ce fait, il y a certaines pathologies qui s'aggravent parce qu'elles sont déjà existantes ou qui commence à se développer. Au niveau de plusieurs organes, je vous fais l'exemple qui est classique. Par exemple, vous avez quelqu'un d'asthmatique, il passe dans une zone où il y a beaucoup de pollution, ses voies aériennes, ses bronches sont déjà bien enflammées et avec l'action des polluants qui sont des agents inflammatoires, voilà qu'une réponse asthmatique exagérée se produit.
On se demandait également pourquoi les enfants sont typiquement les plus vulnérables.
Voilà, donc, non, mais pour compléter le premier point, et c'est une nouveauté finalement, il n'y a pas que les poumons, les voies aériennes, ces polluants vont très loin dans l'organisme humain, on les retrouve au niveau du sang, et donc ces agents inflammatoires dans le sang peuvent toucher des organes auxquels on ne pense pas, par exemple le cerveau ou les articulations. D'accord ? Donc, pour répondre pourquoi les enfants sont plus susceptibles, c'est parce que les enfants sont des organismes en formation. De ce fait, tout agent un petit peu étrange au corps n'arrive pas à être combattu comme il faut. Parce qu'il faut que je vous donne une information importante. On a quand même des défenses naturelles contre les agressions environnementales, et notamment contre la pollution. C'est quand la pollution est trop importante que ces défenses n'arrivent pas à travailler proprement. Et c'est ce qui se passe chez les enfants. C'est aussi quelque chose de très physique. Ben, les enfants sont de petite taille. Ils sont plus près des pots d'échappement, des sources de pollution. Les enfants aussi, surtout quand ils sont bien excités, respirent plus qu'un adulte. Donc, ils font pénétrer plus de polluants.
Et pourquoi est-on capable de dire aujourd'hui le nombre de morts à cause de la... Enfin, d'estimer le nombre de morts à cause de la pollution de l'air, mais pas d'identifier des malades directs de la pollution de l'air?
Parce qu'on fait des modèles statistiques, épidémiologiques, dans lesquels ils arrivent à éliminer ceux qui sont fumeurs, ceux qui ont des problèmes déjà de santé, et les personnes qui risquent d'être malades, par exemple, parce qu'ils sont obèses. Et puis, donc, je retrouve avec des gens qui souffrent plus ou moins d'une pathologie en raison de leur exposition à la pollution atmosphérique. Là, on se retrouve au niveau des urgences, des hôpitaux, à d'avoir plus de gens qui viennent parce que voilà, ils sont malades et qu'ils ont une crise, une exacerbation de leur pathologie. Et alors là, vraiment, c'est la preuve directe de l'effet de la pollution.
Comment prévenir justement ces maladies et se protéger au maximum de la pollution de l'air?
Eh bien, il faut diminuer la pollution au niveau surtout des villes. Hein. Bon, il y a de la pollution, contrairement à ce que les gens pensent, il y a aussi de la pollution au milieu rural. Hein. Mais c'est une pollution de nature un peu différente. Il y a les pesticides, il y a le bois hein, qu'on brûle, etc. Mais dans les villes, il y a la pollution de type particulière. Et le diesel, c'est très méchant parce que on ne les a pas nommés, mais c'est dans le cocktail du diesel, il y a des particules, hein, donc des particules fines et aussi des particules ultrafines. Et ce sont les ultrafines qui pénètrent dans les voies aériennes et qui après arrivent au niveau des alvéoles, passent la barrière alvéolaire, se retrouvent dans le sang et vont irriguer vraiment tous les organes. Voyez, et c'est là que elles engendrent des processus pathologiques à l'origine de pas mal de maladies.
Vous connaissez un peu la situation dans le nord de la France ou pas du tout?
Ben, je connais un peu, je sais que c'est très pollué. Il faut dire, il y a aussi, je pense que vous le savez, l'impact de la météo, hein, quand il y a certaines conditions météorologiques, il y a plus de problèmes.
À Lille, la vulnérabilité des enfants est prise au sérieux. Et pour cause. Selon la MEL, 17% des enfants de l'île sud sont asthmatiques, soit 10 points de plus que la moyenne nationale. Pollution de la métropole lilloise, proximité avec le périphérique et absence de précautions, autant de facteurs qui peuvent contribuer à aggraver les effets de cette pollution sur les enfants. Créée en 2009 sous l'égide d'Atmo, l'association Air et Moi intervient dans les écoles, collèges et lycées afin de sensibiliser les élèves à ce sujet. Orlane Perrault est intervenante pour Air et Moi.
Initialement, c'était une conviction aussi du président de la fédération de savoir que les jeunes allaient être porteurs de solutions pour vraiment faire un peu bouger les choses concernant la qualité de l'air, parce que c'est aussi un sujet qui est un peu trop souvent oublié. Et donc, on trouvait ça important pour les générations futures d'inculquer les bons gestes et de faire adopter les bons comportements au quotidien.
À partir des témoignages que vous avez sans doute recueillis en échangeant avec des personnes donc plus jeunes comme des enfants par exemple, quel est le constat qu'on peut tirer sur la qualité de l'air dans les Hauts-de-France, ou quel est le ressenti du moins des personnes?
Alors c'est vrai que souvent quand j'arrive dans les établissements scolaires, c'est un sujet qui est très méconnu, malheureusement. Mais c'est vrai que du coup il y a un engouement qui s'est créé autour de ça. Plus l'intervention avance, généralement plus on sent l'envie de découvrir ce qui se passe aussi derrière. Et généralement, quand on sent que notre santé ou la planète entre en jeu, qui est vraiment des enjeux importants à ce niveau-là, bah forcément, on s'en implique et on a envie aussi de faire sa part.
Et concrètement, comment ça se passe une intervention quand vous allez dans les écoles?
Alors du coup, généralement, ça dure quand même 2 heures. On essaie de voir un petit peu tout ce qui est possible de voir en aussi peu de temps, parce que c'est vrai que c'est quand même assez court. On commence déjà par poser les bases de l'air, sur le sujet de l'air. À travers des formats très interactifs. Ils ne sont pas juste là pour m'écouter et essayer de comprendre, mais aussi pour être acteurs dans leur engagement et dans leur apprentissage. Donc ensuite, on s'intéresse surtout aux sources de pollution, que ce soit en intérieur, en extérieur, et aussi et surtout les conséquences, les impacts que ça peut avoir sur notre santé et sur les écosystèmes, la planète, l'environnement.
La pollution, ce n'est pas bon. Il faut tous faire attention, la pollution ce n'est pas bon. Il faut tous faire attention, qu'elle soit atmosphérique, elle n'est pas sympathique, qu'elle ne soit que de plastique, il y a toujours un hic.
Et les enfants sont réceptifs, par exemple, quand on leur parle d'impact sur la santé, des fois ça peut paraître un peu immatériel, du coup on ne sait pas s'ils vont comprendre.
Bien sûr, alors pour les... c'est vrai que pour les plus jeunes, c'est plus l'aspect planète qui prend le devant. Et donc oui, pour les collégiens et lycéens, c'est vrai que l'aspect santé, ça les concerne un peu plus, vu qu'ils sont plus conscients de ce qui peut leur arriver aussi au fur et à mesure du temps.
Est-ce que les lycéens, par exemple, ou les collégiens que vous allez rencontrer, ils ont des exemples concrets en tête quand vous leur en parlez? Est-ce qu'ils arrivent, parce que c'est un peu immatériel, la pollution de l'air, au final. Donc, comment est-ce qu'on peut en parler
Justement, mon rôle, c'est de rendre ça concret. On passe surtout par le fait d'expérimenter. Par exemple, moi, je viens en classe avec des microcapteurs pour mesurer la qualité de l'air au sein de l'établissement, que ce soit en intérieur, en extérieur, dans la cour de récréation, par exemple. Et du coup, on fait un constat un petit peu de la qualité de l'air, de ce qu'ils respirent au quotidien, quand ils sont en classe, quand ils sont dans les couloirs, etc. Et donc là, ils voient concrètement d'où peut venir cette pollution. Et du coup, essayer de trouver des solutions pour limiter leur exposition au maximum par rapport à la pollution de l'air.
Et est-ce que vous avez des exemples concrets de solutions que vous présentez à des enfants?
Bien sûr. Alors nous, c'est vrai qu'on ne s'attelle pas uniquement à la qualité de l'air, parce qu'au final, on se rend compte que... c'est très global au niveau des solutions. Ça peut très bien passer par le fait de réduire sa consommation de viande, essayer d'acheter d'occasion, par exemple, soit les vêtements, les produits technologiques, etc. Mais tout simplement aérer 2 fois 10 minutes par jour, ça paraît être un peu le béaba, mais c'est vrai que c'est souvent peu fait. On parle aussi des solutions concernant les déplacements, comment on peut éviter d'utiliser les moyens qui polluent, les moyens de transport qui polluent, en privilégiant la marche, le vélo, le covoiturage, etc.
Est-ce que vous avez eu des retours de la part d'enfants, de lycéens, de collégiens qui, après cette intervention, ont eu un peu une prise de conscience ou du moins ont adopté des nouveaux comportements?
Oui, non, enfin, moi je le vois beaucoup. Avant et après intervention, la perception, je vois qu'elle a vraiment changé. On disait qu'avant, on n'en parlait quasiment pas de la qualité de l'air, et après ils sortent vraiment avec... une prise de conscience, et le fait que, bah oui, c'est vrai que si on veut faire bouger les choses, il faut agir. Et c'est maintenant et pas dans plusieurs années. Donc forcément, oui, on a quand même... on voit quand même une différence du avant-après intervention.
Et c'est important d'en parler dès la primaire, à une période où pourtant c'est plus les jeux et les amis. Et... Non,
évidemment, pour moi, c'est là que ça commence. Et c'est vrai qu'avec le collège et le lycée, on commence déjà à avoir des opinions bien arrêtées. C'est vrai qu'on commence à grandir, etc. Donc c'est vrai qu'à l'école, quand on est encore au primaire, on se rend compte qu'on peut encore capter plein de choses de la vie. Et donc je pense que c'est vraiment dès le plus jeune âge que ça se joue. Le but, c'est qu'ils choisissent les engagements qu'ils sont capables de faire. On leur impose rien du tout. Et donc, à la fin, le but, c'est que tous les élèves signent et affichent cette charte collective d'engagement pour l'air.
Et une dernière question. On voit qu'en fait, vous essayez d'aborder la question avec pas une forme d'optimisme, mais une forme de solution quand même, et que vous n'arrivez pas avec juste pour exposer un bilan alarmiste. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'adopter cette démarche?
Parce qu'on part du principe que si les gens se sentent apeurés et stressés, forcément l'envie d'agir, elle sera moindre. Donc on préfère partir d'une solution positive et leur donner envie d'agir.
Est-ce que vous avez peut-être des exemples ou des situations où les enfants vont être plus exposés peut-être?
Alors oui, tout simplement, quand les parents viennent chercher leurs enfants à 16h30 à la sortie devant les écoles et qu'on voit qu'il y a vraiment un défilé de voitures qui ne coupent pas les moteurs, par exemple, et que les enfants sortent de l'école et voilà, ils sont directement confrontés au pot d'échappement des voitures. Et donc forcément, ils respirent énormément de polluants de l'air. Et donc là, forcément, c'est quelque chose qu'ils peuvent vivre tous les jours et c'est pas à négliger, ouais.
Le danger est donc bien présent, mais de plus en plus d'actions sont menées partout en France. L'association Respire a rendu des rues entièrement piétonnes pour les enfants. Au niveau national, les voitures thermiques, elles, seront interdites d'ici 2050. Et les voitures électriques laissent un réel espoir pour la diminution des particules fines.
Rappelons que la pollution de l'air, en plus d'être un enjeu sanitaire, est également un enjeu environnemental de premier plan, car elle contribue à la formation de gaz à effet de serre qui dérègle notre climat.
Merci d'avoir écouté cet épisode sur la pollution de l'air dans les Hauts-de-France et son impact sanitaire. Cet épisode est réalisé par Sarah Kelifi, Léo Maillard et Fanny Lardillier. Dans le prochain épisode d'On perd le Nord, nous vous parlerons cette fois-ci de l'affaiblissement des stocks de poissons dans la Manche.